cette semaine avec le père Nicolas Benedetto.
Bonjour à tous. Alors, nous continuons notre parcours en écoutant les saints, en essayant de trouver quelques anecdotes dans leur vie qui permettent de voir comment ils étaient en lien avec la Vierge Marie. S'ils sont devenus saints, eh bien, on pourrait résumer en disant que c'est parce qu'ils aimaient beaucoup la Vierge Marie. Et la Vierge Marie leur a obtenu de son Fils cette grâce de la sainteté, qui est plus qu'une grâce, qui est une grâce et aussi un appel, qui est une demande de Dieu pour nous, qui est un désir du cœur de Jésus. Alors, un grand saint, grand amoureux de la très sainte Vierge Marie, c'est bien sûr saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Nous devons dire un mot ou deux à son sujet. Alors là, il est en particulier très connu pour avoir écrit le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, un traité indépassable qui a inspiré tant de saints après lui et qui a fait aimer la Sainte Vierge énormément. Et c'est vrai que depuis sa toute petite enfance, saint Louis-Marie Grignon de Montfort est vraiment amoureux de la Vierge Marie. On dit que tout son plaisir, depuis qu'il était tout petit, était de parler de la Vierge Marie et d'entendre parler de la Vierge Marie. Voilà. Alors, écoutons un petit peu Louis Le Crom, là, dans sa biographie de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui nous donne quelques éléments. Toute la vie intérieure de Montfort, déjà si profonde à cette époque, donc là il est jeune, hein, à ce moment-là il est en classe de 3e, il a à peu près 14 ans. Toute sa vie intérieure est basée sur la dévotion à Marie et soutenue par elle. Avec une confiance d'enfant bien-aimé, il ne faisait rien sans consulter sa mère du ciel dans d'affectueuses prières. Au pied de ses statues, il la priait, l'honorait, il réclamait sa protection, il lui dédiait son innocence, la conjurait d'en être la gardienne, il se consacrait à son service, et cela pendant des heures chaque jour. Et comme la Sainte Vierge, en retour, savait exaucer les pieux désirs de son enfant. Alors là, on va citer M. Blin, qui l'a beaucoup accompagné. Voilà ce qu'il dit de lui. Comme son extrême amour de la pauvreté et des pauvres, et son abandon apostolique à la Providence le mettaient dans des nécessités continuelles, il avait besoin d'une mère aussi tendre et aussi vigilante que la Sainte Vierge pour y pourvoir. Qu'est-ce qui lui a jamais manqué avec le secours de la Reine du Ciel? Ceux qui ont connu M. Grignon à fond, comme moi, savent que les miracles de sa Providence maternelle sur lui se multipliaient avec ses jours. Et que si quelquefois elle paraissait le délaisser pour quelques heures, ce n'était que pour animer sa confiance envers elle et l'exercer dans la pratique des plus difficiles vertus. Aussi, comme une bonne mère qui prend plaisir à se dérober quelques moments aux yeux de son enfant pour lui rendre ensuite sa présence plus douce et plus sensible, la divine Marie paraissait parfois oublier le plus zélé et le plus tendre de ses dévots. Mais après avoir éprouvé sa vertu, elle ne tardait plus guère de faire éclater sa tendresse pour lui par quelques preuves de sa bonté. Vous voyez, c'est aussi intéressant pour nous. Parfois, on se dit, tiens, je prie Marie, je l'aime et elle ne m'exauce pas. Alors, dans le plan de Dieu, on sait que, voilà, vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, sauveur, dit Isaïe. Le plan de Dieu nous dépasse infiniment et nous devons pousser notre confiance à l'extrême, hein, jusqu'à l'abandon total dans les mains de Dieu, pour comprendre que c'est lui qui décide des temps et des moments où nous devons être exaucés et de quelle manière nous devons l'être. Alors, allons un peu plus loin dans sa vie, un peu plus tard, quand saint Louis-Marie est séminariste. Et notre dévot séminariste, donc nous le savons maintenant, hein, aimait à parler sans cesse de la Sainte Vierge, eh bien il portait sur lui une petite statue en métal. Alors là, il y a une anecdote, c'est que donc cette petite statue en métal qui portait sur lui, qui prenait souvent dans ses mains, il la regardait affectueusement, il la vénérait en lui baisant les pieds avec une dévotion toujours nouvelle. Et le directeur de l'établissement craignait peut-être quelques sentimentalités dans ses marques de dévotion. Disons, un peu comme, vous voyez, un attachement exagéré à un objet de piété. Et voilà, il s'est dit, bon, peut-être il faudrait que je lui retire cette statuette. Et c'est ce qu'il a fait. Un jour, il a retiré la statuette des mains de Louis-Marie. Celui-ci, c'est toujours le biographe Louis Le Crom qui nous parle, celui-ci, certes, en fut bien mortifié. Mais, se ressaisissant, il déclara avec flamme, On peut m'arracher les mains à l'image de ma bonne mère, mais on ne pourra jamais me l'arracher du cœur. » Et d'ailleurs, finalement, la Providence a permis qu'une autre statue lui fût offerte et finalement laissée à sa dévotion. Alors, il y a encore une autre anecdote qui montre aussi sa confiance en Marie. Un jour, Louis-Marie appelle un pieux laïc, M. Levallier, parce qu'il a un service à lui demander. Il lui donne 30 sols, je crois que ça correspond à peu près à 10 centimes, en lui disant « Veuillez s'il vous plaît m'acheter à la friperie une culotte en peau de chamois ». Mais M. Levallier répond « 30 sols, ce n'est rien, il en faudrait au moins 3 fois plus ». « Vous n'avez pas de foi », réplique Montfort. « La Sainte Vierge, ma bonne mère, ajoutera le surplus. Allez, et si on vous refuse cet habit, eh bien donnez l'argent au premier pauvre que vous rencontrerez. » Et eh bien, il arriva exactement ce que M. Levallier craignait, avait prévu. Les 30 sols ne se multiplièrent pas entre ses mains, et le marchand se moqua d'un pareil acheteur, et ne voulut jamais céder à un tel prix, ce qui valait beaucoup plus. Mais ce qui valait 2 pistoles, au passage. Alors, fidèle à la consigne reçue, M. Levallier, sur le chemin du retour, donne les 30 sols à un pauvre, en se disant, la Sainte Vierge, en qui M. Grignon a tant de confiance, fournira bien le nécessaire. Et en rentrant au séminaire, il raconte tout cela à Louis-Marie. « Bon, lui répondit celui-ci, « pendant que vous étiez occupé à me faire cette charité, une personne m'a apporté 2 pistoles, les voici. Je vous prie de retourner chez le marchand. » Voilà cette confiance de Saint Louis-Marie qui apparaît dans les petites anecdotes de la vie courante. Alors, bien sûr, ce qui nous marque aussi chez lui, c'est ce saint esclavage dont il a parlé. Alors le mot est peut-être un peu fort pour nous, un peu étonnant. C'est intéressant de voir qu'il n'a pas tout inventé. En fait, il a lu un livre, le livre de M. Boudon, qui s'appelle « Le saint esclavage de l'admirable mère de Dieu ». Et il s'en est tellement pénétré qu'en fait, on pourrait dire qu'il en a fait passer la substance justement dans son livre, là, le fameux « Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge ». Voilà. Qui est pour lui, en fait, cette expression, il y tient beaucoup, le saint esclavage. Voilà, et c'est la suprême expression de l'amour envers Marie, pourrait-on dire. Voilà un passage de ce livre, de M. Boudon. « Tous les biens que possède celui qui est véritablement esclave de la glorieuse Vierge ne sont plus à lui. Tous ses biens de fortune, de corps et d'esprit, mais à sa bonne maîtresse, en sorte qu'il n'en peut disposer contre sa sainte volonté. » Vous voyez, ça va loin, ça va très très loin. Et plus tard encore, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort écrira une prière magnifique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la prière embrasée. Alors on va peut-être en lire un petit passage, un petit extrait. C'est vrai que la prière, c'est la vie, c'est le quotidien de tous les saints. Ils ont cette grâce aussi qu'ils ont tant demandé, tant désiré, d'une prière continuelle. Et un jour, on pourrait dire c'est comme une préface à la règle qu'il a voulu écrire pour la compagnie de Marie qu'il a fondée. Il écrit ces pages ardentes, pour ça qu'on les a surnommées la prière embrasée. Et l'objet de cette prière, c'est vraiment de placer toute sa société de missionnaires sous le patronage de la Vierge Marie. « Donnez des enfants à votre mère, autrement que je meure. C'est pour votre mère que je vous prie. Souvenez-vous de ses entrailles et de ses mamelles. Souvenez-vous de ce qu'elle est pour vous. » Voilà, il parle bien sûr au Fils, à Dieu le Fils, Jésus, notre Seigneur. « Qu'est-ce que je vous demande ? Rien en ma faveur, tout pour votre gloire. Qu'est-ce que je vous demande ? Ce que vous pouvez, et même, je l'ose dire, ce que vous devez m'accorder. » Voilà, et à la finale de cette prière, comme un cri d'alarme, « Voyez-vous, Seigneur, Dieu des armées, les capitaines qui forment des compagnies complètes, les potentats qui font des armées nombreuses, les navigants qui forment des flottes entières, les marchands qui s'assemblent en grand nombre dans les marchés et les foires. Que de larrons, d'impies, d'ivrognes et de libertins s'unissent en foule contre vous tous les jours et si facilement et si promptement. Un coup de sifflet qu'on donne, un tambour qu'on bat, une pointe d'épée émoussée qu'on montre, une branche sèche de laurier qu'on promet, un morceau de terre jaune ou blanche qu'on offre. En 3 mois, une fumée d'honneur, un intérêt de néant et un chétif plaisir de bête qu'on a en vue, réunit en un instant les voleurs, ramasse les soldats, joint les bataillons, assemble les marchands, remplit les maisons et les marchés, et couvre la terre et la mer d'une multitude innombrable de réprouvés, qui s'unissent tous ensemble jusqu'à la mort pour vous faire la guerre sous l'étendard et la conduite du démon. Et vous, grand Dieu, quoi qu'il y ait tant de gloire, de douceur et de profit à vous servir, quasi personne ne prendra votre parti en main. Ah, permettez-moi de crier partout. Au feu, au feu, au feu, à l'aide, à l'aide. Au feu dans la maison de Dieu, au feu dans les âmes, au feu jusque dans le sanctuaire. Seigneur, levez-vous. Pourquoi semblez-vous dormir ? Levez-vous dans votre toute-puissance, votre miséricorde et votre justice, pour vous former une compagnie, choisie de garde-corps, pour garder votre maison, pour défendre votre gloire et sauver vos âmes, afin qu'il n'y ait qu'un troupeau et qu'un pasteur, et que tous vous rendent gloire dans votre temple. Amen. Et vous voyez, alors c'est étonnant, donc c'est vraiment fort, c'est un cri tellement ardent. Eh bien, tout cela concerne donc la création d'une compagnie qu'il appelle la compagnie de Marie. On pourrait les appeler les apôtres des derniers temps. C'est ce qu'il dit, c'est qu'en fait, voilà, ce sont ces apôtres des derniers temps qui seront vraiment les dévots de Marie, les esclaves de Marie, qui obtiendront, on pourrait dire, le salut final, voilà, qui intercéderont de manière puissante. Deux autres points qui nous marquent encore dans sa vie, c'est aussi la place du rosaire. Hein. Il avait d'ailleurs fait toute une petite méthode pour pouvoir réciter avec fruit le Saint Rosaire. Voilà, à ses yeux, les prières si belles du chapelet risquaient parfois de demeurer comme un corps sans âme si on ne les imprégnait pas de la contemplation des mystères. Ce qu'il est bon de rappeler aussi, hein, que cette prière magnifique du chapelet, et c'est avant tout une méditation des mystères de la vie de Jésus. Donc c'est pour ça qu'il voulait faire une méthode pour aider les personnes justement à prier avec fruit le rosaire. Donc il créait, voilà, des petites oraisons qui encadraient l'offrande de ces 15 mystères pour justement entraîner notre piété vers une prière finale comme un résumé à chaque fois de la doctrine. C'est ce qu'il appelait la petite couronne. Et puis, eh bien, pour nous, alors sans forcément utiliser toutes ces oraisons, eh bien, voilà, nous nous rappelons que le chapelet est vraiment cette prière à la fois toute simple, mais vraiment profonde aussi de méditation, de connaissance du Christ. C'est la Vierge Marie qui nous conduit plus avant dans la connaissance de son Fils. Et enfin, ce dernier point qui nous marque dans sa vie, c'est que même dans ses confessions également, il y avait vraiment, voilà, tout était centré sur la Vierge Marie, sur Jésus en Marie. C'était son apostolat marial, pourrait-on dire. Très souvent, voilà, dans la réception du sacrement de pénitence, il invitait les pécheurs à invoquer le secours de la Sainte Vierge afin d'obtenir un regret plus profond de ses péchés. Et puis après l'absolution reçue, d'aller au pied de Marie pour confier à cette bonne mère sa persévérance, se donner par elle au Sauveur Jésus. Chers amis, nous nous quittons et nous nous retrouverons demain pour continuer notre petit parcours à travers la vie des saints.